Donc, on va commencer notre étude. On était encore dans la section du meilleur sacrifice qu'on regardait ensemble. C'est là qu'on est rendu. Puis ensuite, on va tomber dans le chapitre 11 avec la foi, puis le chapitre 12, l'espérance, puis le chapitre 13, l'amour. C'est qu'on va regarder, on va lire encore notre passage dans Hébreux 9, 23 jusqu'à 10, 39. Donc, Hébreux 9, au verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un combat, un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez de biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole. Ensemble, on va demander son aide maintenant. Seigneur notre Dieu, encore une fois ce soir, merci pour tous ceux qui se sont rencontrés sur cette plateforme Zoom, Seigneur, afin de pouvoir étudier ta parole, afin de pouvoir se délecter, Seigneur, de ces vérités merveilleuses que tu nous as données. Merci pour ton esprit qui nous aide dans ces choses, Seigneur, et aide-nous, notre Dieu, non seulement à connaître ces choses, mais vraiment à vivre et à en jouir et à répondre, notre Dieu, à ce que tu, ces grands bienfaits que tu as faits pour nous. Notre Dieu, on voudrait penser à notre frère Serge, qui a dû rentrer sa femme à l'hôpital, Seigneur, mets ta main sur lui, fortifie-le aussi, elle, Seigneur, dans sa maladie. Puisses-tu parler à son cœur, Seigneur, pour qu'elle puisse se tourner vers toi. Puis on te demande, notre Dieu, de l'aider. On sait que c'est pas facile, des situations comme ça. On te demande, Seigneur, d'avoir ta main sur toutes ces choses au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on avait vu que le sacrifice, c'était ce qui était important. Tout le reste est fondé sur ce sacrifice parfait que le Seigneur Jésus, qui est un meilleur sacrifice, mais tout le reste dépend de ce sacrifice-là. Donc, on a vu que c'était important. Mais on avait démontré la supériorité de ce sacrifice du fait que l'endroit, du fait qu'il était unique. On a parlé que c'était un seul sacrifice pour toujours. Il n'y a pas besoin d'être répété. Le fait qu'il est unique, c'est ce qui fait que c'est un sacrifice supérieur en comparaison avec les multiples sacrifices de l'Ancien Testament. Lui, c'est une fois pour toutes. Donc, c'est le fait qu'il est unique. Ensuite de ça, l'endroit, ce qui fait qu'il est supérieur, c'est à cause de l'endroit où le sacrifice a été introduit. Ce n'est pas dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais c'est dans le sanctuaire véritable, dans la présence même de Dieu, que le sacrifice a été offert. Et ensuite de ça, on a vu qu'il est supérieur aussi par le résultat du sacrifice. Il nous a sanctifiés une fois pour toutes, puis maintenant, nous attendons pour qu'il revienne pour nous. Et c'est ça qui faisait que ce sacrifice-là était supérieur aux autres sacrifices, des choses qu'on ne peut pas dire des autres sacrifices. Maintenant, on va regarder le résultat, là. Okay. Le résultat qui est attendu par Dieu de notre part. Qu'est-ce que Dieu s'attend maintenant? Dieu a fait beaucoup pour nous en nous donnant un sacrifice parfait, en nous donnant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme ça. Mais maintenant, lui, il s'attend de nous en retour. C'est ce qu'on va regarder un peu ce soir ensemble. On va regarder quelle est la réponse que nous avons à ce sacrifice merveilleux, ce sacrifice qui est tellement supérieur et qui nous donne vraiment des grands avantages qui n'étaient pas dans l'ancienne alliance. Mais maintenant, dans cette nouvelle alliance-là, on peut s'approcher de Dieu par la foi. On peut entrer dans le sanctuaire aussi où le Seigneur Jésus est entré une fois pour nous. Donc, qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous? On a des exhortations. Vous savez, avec l'instruction, on a l'instruction dans la parole, mais ensuite de ça, on a des exhortations. Les exhortations, une exhortation, c'est quelque chose c'est vraiment de pousser quelqu'un à performer avec les instructions, puis aussi de pousser pour que quand on parle d'un athlète avec son coach, ben le coach, il va être à côté de son athlète et il va lui donner l'instruction pour qu'il performe, puis aussi il va le pousser pour qu'il donne le maximum d'efforts. C'est un peu ça qu'on voit comme une exhortation, c'est comme ça, c'est donner l'instruction, mais aussi de pousser pour que la personne donne son maximum. Puis c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, il y a quatre choses qu'on va voir ensemble. C'est la première exhortation au verset 22, c'est approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Dans la deuxième exhortation, verset 23-24, il dit: retenons fermement la profession de notre espérance. Puis en même temps, ben, il y a le verset 24, c'est: veillons les uns sur les autres pour qu'on retienne fermement la profession de notre espérance. Puis ensuite, de ça, au verset 25, il va nous dire: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Puis au verset 35 à 37, il va dire: n'abandonnons pas notre assurance. Donc, on a, premièrement, approchons-nous donc. L'entrée nous est ouverte. Approchons-nous donc. Et deuxièmement, retenons fermement la profession. Et troisièmement, n'abandonnons pas notre assemblée. Puis ça, c'est important, très important. Et le quatrième, c'est n'abandonnons pas notre assurance. Donc, on voit dans le verset 22, il nous dit ici: approchons-nous donc avec un cœur sincère. Donc, avec un cœur sincère, c'est-à-dire que Dieu, on ne peut pas jouer de jeu avec Dieu. Dieu lui connaît nos pensées même plus que nous-mêmes. Dieu sait ce qui est dans notre cœur. C'est pour ça qu'il nous dit ici: approchons-nous donc avec un cœur sincère. C'est la réalité ici dans la relation avec le Seigneur. Dans la plénitude de la foi. Hein, dans la plénitude de la foi, c'est qu'on est certain de ces choses-là parce qu'ils nous sont assurés par la parole de Dieu. Maintenant, la foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Ça, c'est donc dans la plénitude de la foi. Puis, une chose qui est très importante pour pouvoir s'approcher, ben, il dit: les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, on a accès. Puis, c'est sûr que si on n'avait pas le cœur, comme il dit ici, si on n'avait pas le cœur purifié d'une mauvaise conscience, puis le corps lavé d'une eau pure, on ne pourrait pas s'approcher. Mais on a vu qu'avec le sacrifice de Christ, qui est supérieur, maintenant on a cette possibilité-là de pouvoir s'approcher de Dieu. Le cœur racheté, puis le corps lavé, c'est pour le service. Le cœur qui est racheté, c'est à cause de notre rachat. Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On est en position parfaite en Christ. Mais le corps lavé d'une eau pure, on voit que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, pour aller officier dans le temple, il fallait qu'il y avait la mer là, à l'extérieur, puis on devait prendre de l'eau, faire des ablutions pour se purifier. Il y avait tout un rituel de purification afin que quand ils entraient dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, même dans le lieu saint, puis encore plus dans le lieu très saint, il fallait que les serviteurs, les sacrificateurs, il fallait qu'ils soient lavés. Là, il dit le corps lavé d'une eau pure. C'est de toujours vivre dans la lumière et de confesser notre péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, on peut s'approcher sans crainte parce qu'on est en position parfaite en Christ. Et on peut le servir. C'est un privilège de pouvoir le servir. Paul, il voyait ça, il disait que la grâce lui avait été faite de servir le Seigneur Jésus. Parce qu'il était un blasphémateur, il était un pécheur. Il se nomme même le premier des pécheurs ou le chef des pécheurs. Mais la grâce lui avait été donnée de pouvoir servir le Seigneur. Puis nous aussi, cette grâce-là nous a été accordée de servir le Seigneur. Puis c'est comme un privilège merveilleux qu'on a. C'est pas n'importe qui peut servir le Seigneur. On sait qu'avant notre salut, on ne pouvait pas servir le Seigneur. Puis si on ne vit pas dans la lumière, si on ne confesse pas nos péchés, on ne peut pas servir le Seigneur. Mais maintenant, on a le cœur racheté, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Au verset 23, il dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça, c'est vraiment merveilleux. Regardez ce qu'il dit ici: la profession de notre espérance. Pourquoi qu'on peut retenir fermement cette profession-là? C'est parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et fidèle, ça veut dire digne de confiance. Ça veut dire qu'on peut pas être trompé. S'il nous dit ces choses-là, il est fidèle. Ça veut dire qu'étant fidèle, nous, on peut retenir fermement la profession qu'on a faite. Puis les gens disent, ah, vous êtes sauvés. Oui, on est sauvés parce que le Seigneur l'a dit, pas parce qu'on est meilleur. Puis souvent, les gens, quand on leur dit qu'on est sauvés, on est sûr d'aller au ciel et dire, ah, oui, tu penses que tu es meilleur que moi. Mais c'est pas ça qu'on veut dire. On est aussi pire qu'eux autres. Mais c'est à cause de la promesse du Seigneur Jésus. C'est ça qu'on a, on a notre profession. C'est parce qu'on est basé sur une promesse. La foi se base toujours sur une promesse. La foi, c'est pas quelque chose qui est exercé dans le vide, là. La foi est toujours fondée sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu. Si Dieu le dit, on peut s'y fier. Ça, c'est important de comprendre ça. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, là-dedans, on a besoin de s'exhorter les uns les autres. Dans 2 Timothée 2, au verset 22, il dit: Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Puis la fin du verset est importante: avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voyez-vous? C'est pour ça que c'est important. On retient fermement la profession, mais on a besoin les uns des autres. Il faut fuir les passions de la jeunesse, puis rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans n'importe quoi qu'on est, si on n'a pas, moi, je voulais être végétarien avant d'être sauvé, puis je m'étais dit, si on n'a pas des amis végétariens, on ne réussira pas. On a besoin d'avoir des gens qui pensent comme nous autres. On a besoin de s'encourager, s'aider, puis dans la foi, ça j'ai laissé tomber le végétarisme, mais dans la foi, on a besoin les uns des autres. On a besoin de s'encourager, on a besoin de s'exhorter, on a besoin des fois, on est un peu découragé, notre frère, notre sœur nous aide, nous encourage, puis la même chose pour eux qu'on doit faire aussi. Donc, il faut rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Comme on a parlé tantôt, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Donc, avec ceux qui sont dans la même situation, c'est important pour nous de pouvoir tenir ferme, retenir cette profession-là. Dans 1 Corinthiens 1, au verset 2, il dit: À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, Paul adresse son épître, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est important pour nous autres de choisir un bon endroit, de choisir ceux qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur, ceux qui invoquent le Seigneur Jésus. Qui veulent vraiment être centrés sur la personne du Seigneur Jésus. Donc, c'est important ces choses-là. Donc, on a une profession qu'il faut garder, qu'il faut retenir fermement, rester attaché à cette profession-là, parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Puis de veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est vrai, ça, quand on est ensemble, puis qu'on partage, vous savez. La réunion de prière, on partage des choses pour la prière. C'est un peu comme c'est la communion fraternelle qu'on voit dans le livre des Actes. Puis quand on entend nos frères nous parler des choses qu'ils ont, quand on a témoigné à quelqu'un, ça nous exhorte, ça nous encourage. Puis un a parlé, puis des fois, ensuite, on prie ensemble pour ces choses-là. C'est important de faire ces choses-là. Puis ensuite, tout de suite après, il nous dit au verset 25, n'abandonnons pas. Donc, c'est des commandements qu'il nous donne ici, là, des exhortations basées sur la réalité de ce qu'il nous a enseigné. Maintenant, il nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous savez, en perdant de vue ces choses-là, on peut abandonner. Puis si on est encore là, c'est par la grâce de Dieu. Mais si on s'éloigne de ces choses-là, si on se nourrit pas de ces choses-là, si on se réunit pas ensemble avec les frères et sœurs, puis vous savez, à un moment donné, on laisse aller un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis des fois, on se retrouve bien loin. Fait qu'il faut faire attention pour rester ferme. C'est sûr qu'il y a des raisons, des fois, qu'on ne peut pas assister, mais vous savez, la réunion de prière, c'est quelque chose de très important. Ça démontre quoi, la réunion de prière? Ça démontre qu'on est dépendant. On est dépendant du Seigneur Jésus. Si on n'est pas dépendant du Seigneur Jésus, on n'a pas besoin d'aller prier. Mais quand on est dans la dépendance, on a besoin. C'est un besoin. C'est comme si on ne peut pas s'en passer. Puis, les autres réunions aussi sont importantes, mais la réunion de prière est très, très importante. Il y a un frère qui disait que leur réunion de prière avec l'étude, c'était leur réunion qui était le plus. Il y avait plus de gens qui assistaient. Parce que même que les réunions d'adoration dimanche ou les réunions d'édification, il dit qu'il y avait des gens de la communauté qui venaient pour la réunion de prière, pour la réunion de prière à cause de l'étude qu'il y avait. Donc, c'est important. Ceux qui ont abandonné là, sont un avertissement pour nous. On voit qu'il y a des gens qui ont abandonné les saints. Puis souvent, il y a des gens qui ont abandonné, puis ils ont fait bien des détours pour en arriver au point qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'il n'y avait pas d'autre option. Il fallait être avec les chrétiens, il fallait se réunir avec les chrétiens. Fait que c'est important, ces choses-là. Puis ce qui nous tient, c'est quoi? Mais c'est notre espérance. Hein? Parce qu'il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il parlait aussi de ne pas être éloigné lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Mais c'est ça, c'est important de rester, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Puis je pense qu'on est à un temps qu'on voit s'approcher le jour. Puis on a besoin les uns des autres. Mais ensuite de ça, il arrive avec un avertissement solennel. Comme on a vu dans l'Épître aux Hébreux, il y a des avertissements qui sont donnés. Puis c'est des avertissements assez radicaux dans le sens, parce que c'est à cause de l'importance. C'est pour ça que Paul, on n'est pas sûr, hein, mais que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, celui qui écrit l'Épître aux Hébreux, il donne des avertissements solennels. Pourquoi? Ben, à cause de le sérieux, puis le danger qu'on court. Il dit au verset 26, comme on voit ici, il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, si quelqu'un qui a entendu l'Évangile, puis qui retourne, mais il n'y a pas d'autre, c'est la seule option. Il y en a juste une option. C'est de se tourner vers le Seigneur Jésus dans la repentance, puis dans la foi pour recevoir. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il nous a parlé d'un meilleur sacrifice. C'est un sacrifice qui était supérieur. Il n'y en a pas d'autre. Il y en avait d'autres dans l'Ancien Testament, mais celui-là il a enlevé les anciens pour établir quelque chose de nouveau. Mais il dit une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voyez-vous, dans le contexte, on sait que les Hébreux, ils avaient tendance à vouloir retourner au temple, puis à la religion juive. Mais de retourner là, il dit, il n'y a pas. Puis là, il dit dans le verset 28, celui qui a violé la foi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. On voit ça, hein, quand quelqu'un avait fait un péché, il y avait deux ou trois témoins qui témoignaient contre lui, puis s'il avait péché, il mourait sans miséricorde. Mais si on rejette le sacrifice de Christ, ben, il dit, verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Ça c'est des professeurs, des gens qui professaient puis qui retournent en arrière. Ben, c'est vraiment sans aller vers la perdition. Hein. C'est pas, si on refuse, si on outrage l'Esprit de la grâce, parce que l'Évangile, les gens qui ne reçoivent pas l'Évangile, c'est une désobéissance. Ils n'obéissent pas à l'Évangile. L'Évangile les appelle à se repentir de leurs péchés, puis à mettre leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui rejettent, c'est une désobéissance à laquelle ils vont avoir à faire face aux conséquences de ça. C'est sûr que chacun a le choix, mais il n'y a pas le choix de la conséquence. Puis la conséquence de rejeter, c'est outrager l'Esprit de la grâce. Quelqu'un qui voudrait faire grâce à un autre, Puis l'autre, il dit, c'est un peu comme Justin Bourque à Moncton qui avait tué trois policiers. Ils ont voulu, lui, non, il plaidait, il voulait pas plaider rien. Il était, la seule chose, lui, il avait agi, il avait fait ces choses-là, puis il demandait pas de miséricorde de rien. Il voulait avoir sa sentence. Puis il y a eu une sentence de une sentence à vie, trois sentences à vie. Donc, puis il dit qu'il aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qu'il aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, ça c'est le Seigneur, à moi la rétribution. Les gens disent, ben, comment ça qu'il y a un Dieu qui est juste, pourquoi qu'il ne juge pas les choses? Oui, il va juger un jour. Mais c'est dans un jour que lui a choisi, il va juger. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Seigneur va juger son peuple. La parole de Dieu nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Ce n'est pas le même jugement que les non-sauvés, mais la maison de Dieu, c'est comme un père qui nous châtie pour que nous participions à sa sainteté. Mais pour les gens du dehors, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ça va être un jugement, condamnation éternelle. Il dit, puis au verset 31, il nous dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, c'est ça qui est l'avertissement ici, là. Mais ensuite de ça, il vient à leur dire, il y a un prix à payer, pas pour être sauvé, mais pour professer, pour professer le nom du Seigneur Jésus, qu'on lui appartient. Il dit, au verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Et dans un endroit, quand il y a des gens qui sont sauvés, à un moment donné, ben là, ça parle. Comme nous autres, ici à Saint-Andémon, quand on était sauvés, les gens parlaient. Nous, on ne les entendait pas dire qu'est-ce qu'ils disaient, nous autres. On entendait des bribes ici et là, mais les gens qui n'étaient pas sauvés, eux, ils les entendaient dire qu'est-ce qu'ils disaient, nous autres. Fait que pour eux autres, ça devient encore plus difficile parce qu'ils savent que le moment où ils vont se joindre aux chrétiens, ben, ils vont se faire traiter de la même façon que les chrétiens. Fait que c'est ça qu'il leur dit. C'est d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc, il prenait un choix, là. Il choisissait, un peu comme Moïse qui a choisi d'être persécuté avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir de la jouissance du péché pour un temps en Égypte. Il a préféré être avec le peuple de Dieu qui était des esclaves, qui étaient maltraités. Il a pris ce choix-là. Pourquoi? C'était pas parce qu'il aimait être persécuté, mais c'était parce qu'il voyait la rémunération à venir, que ça valait plus que tout ce que l'Égypte pouvait offrir pour un temps. Donc, c'est important. Il y en a qui veulent être sauvés, mais ils ne veulent pas s'identifier. Ils veulent être sauvés, mais ils ne veulent pas s'identifier. Puis le Seigneur, il dit dans Jean, au chapitre 2, verset 23 à 25, on va aller peut-être dans Jean 2, verset 23-25. Vous savez, quand le Seigneur Jésus parlait, il y a des gens il y a des foules qui l'écoutaient, qui écoutaient qu'est-ce qu'il disait, mais pas tout le monde qui prenait position pour lui. Dans Jean 2, 23 à 25, il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. On dit aussi qu'il y avait des gens qui croyaient, mais par crainte des Juifs, par crainte des dirigeants religieux, ils n'osaient pas en faire l'aveu. On voit comme Nicodème était venu de nuit auprès du Seigneur Jésus, mais à la fin, Nicodème a pris position, il est allé avec Joseph d'Arimathée, il est allé demander le corps du Seigneur Jésus. C'est que Mais le Seigneur veut qu'on prenne position. C'est pour ça qu'il y a le baptême. Quand on le baptême, c'est pour que on confesse de notre bouche. On croit dans notre cœur, on confesse de la bouche. Puis dans le baptême, c'est qu'on confesse publiquement que maintenant, on est associé au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on est avec lui. On a tourné notre dos au monde, à la religion. On s'est tourné vers le Seigneur Jésus. Ça, c'est important de comprendre ça. Ensuite de ça, au verset 35, il nous donne la quatrième exhortation. Il nous dit ici, verset 34 à 37, il dit, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est ce qu'on parlait de comme Moïse, il avait choisi cette rémunération-là, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Ça nous fait penser au fait que l'éternité, là, c'est bien plus long que le temps ici, là. Qu'est-ce qu'on choisit? Le temps ici ou l'éternité? Puis l'éternité, c'est pour toujours. C'est pour ça qu'il nous dit ici à laquelle est attachée une grande rémunération. Il faut regarder à ce qui va venir dans l'éternité. C'est ça qui fait en sorte qu'on va avoir cette assurance-là. Vous savez, quand on a les yeux fixés sur le but, c'est-à-dire sur l'espérance, ben on n'abandonne pas notre assurance. Puis ça, c'est une question de temps par rapport à l'éternité. C'est juste le temps. Si on peut se mettre ça dans la tête, c'est juste ici, temporaire, c'est pour un temps. Tandis que l'espérance, pour nous, c'est l'éternité. Puis l'espérance, c'est ce qui nous fait persévérer. Vous savez, quand on veille, il faut que c'est des gens qui travaillent de nuit, le plus dur moment dans la nuit, c'est juste avant que le soleil se lève. Puis c'est long, on combat, mais quand le soleil se lève, là, on combat plus. Mais nous, on est à ce point-là. Dans la vie, on est au point où que bientôt, on va voir le Seigneur Jésus-Christ. Comme il dit au verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. C'est ça, le Seigneur, il va venir au bon moment. Il sait exactement quand est-ce qu'est le bon moment de venir, puis ça va être le bon moment. C'est sûr qu'on voit que le Seigneur, il agit avec patience. Puis on apprécie sa patience. C'est sûr qu'on voudrait que le Seigneur revienne bientôt, mais on a des amis, on a des gens qu'on aime, des enfants, des frères, des sœurs, des parents, qu'on voudrait voir venir au Seigneur. Puis la patience de Dieu, comme il dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est merveilleux. Mais quand on arrive au verset 38, là, on est introduit au chapitre 11. Quand il nous dit ici, encore, et mon juste vivra par la foi. On sait que la foi, c'est le thème du chapitre 11 qu'on va voir. Il dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes plus là. Il fait une affirmation ici, là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, il y a une différence entre ceux qui n'ont pas la foi et ceux qui ont la foi. Il dit aussi dans Jean, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils avaient été des nôtres, ils auraient continué. Mais puis, il faut réaliser aussi qu'il peut y avoir des rétrogrades. C'est pas tous des apostats, il y a des rétrogrades. Les rétrogrades, ça peut arriver qu'on tombe. Ça peut arriver que, puis, mais le Seigneur, il va nous, un peu comme David, hein, il dit, tant que je me suis tué, ta main s'appesantissait sur moi et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Là, j'ai dit, j'avouerai ma transgression à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, il y a une différence entre un rétrograde et un apostat. Un apostat, lui, il n'a jamais connu. C'était seulement quelqu'un qui faisait profession. Il n'avait jamais été possesseur de cette vie-là. Mais le rétrograde, lui, il possède, mais il est malheureux, un peu comme Lot, qui tourmentait journellement son âme juste à cause des choses qu'il voyait parce qu'il vivait dans ce domaine. Donc, c'est important. Puis là, maintenant, il va nous introduire au chapitre 11, puis il va nous parler des héros de la foi. Mais les héros de la foi, c'est quoi? Mais c'est la preuve que ça vaut la peine de persévérer. Parce que ces gens-là ont vécu les mêmes situations que nous autres on vit. Mais ils ont persévéré. Puis moi, c'est une chose, quand je vois des personnes âgées qui ont vécu leur vie chrétienne, qui ont été fidèles, qui sont encore fidèles, je me dis, ils ont toutes vécu les situations que moi je vis, puis ils ont persévéré, ils ont continué. Fait que c'est une preuve, on est entouré d'une si grande nuée de témoins, Bien sûr, dans l'Ancien Testament qu'on voit dans le chapitre 11, mais il y a des gens aussi dans le temps de l'Église qui ont persévéré, puis des gens qui ont persévéré dans des situations très difficiles. On pense au temps de persécution. Il y a eu des grands temps, des catacombes. Les chrétiens étaient, puis en temps de persécution, de grandes persécutions, les chrétiens sont plus forts parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut vraiment qu'ils restent attachés au Seigneur. Nous autres, c'est un petit peu comme on peut aller un peu à la légère, mais eux, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils restent attachés fermement au Seigneur. Puis c'est ça qui est important. Quand on répond à l'offre de Dieu, là, lui va être fidèle, puis ça y fait plaisir. Ça y fait plaisir qu'on exerce la foi dans ses promesses, parce que ça démontre qu'il est vrai. Dans Ésaïe 53, verset 11, il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Donc, le Seigneur, à cause du travail de son âme, on sait que ça nous rapporte à l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la croix. Il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Puis, c'est ça qui va être manifesté dans l'éternité. Ça va être à la gloire de Dieu. Imaginez-vous quand on va être tous les rachetés, rassemblés dans la maison du Père avec le Seigneur Jésus, le capitaine de notre salut. On va être avec lui, puis ça va donner gloire à lui. C'est lui qui il va nous avoir fait traverser tout le chemin qu'on a traversé pour être dans sa présence. C'est ce qui va être manifesté. Mais quand il dit au verset 38, et mon juste vivra par la foi. Ça, c'est une citation de Habacuc, chapitre 2, verset 4. Puis là, parce que dans Habacuc, chapitre 2, verset 4, il parle d'une prophétie. Il parle d'une prophétie, d'une promesse qui va s'accomplir, mais il faut l'attendre. C'est ça qu'il parle dans Habacuc. Il parle d'une prophétie, puis il dit, attends-la, parce qu'elle va venir. Mais c'est comme on avait vu, c'est une mise à l'épreuve de notre foi, là. Dieu a fait la promesse, puis il semble que nous autres, ça n'arrive pas. Mais il dit, attends-la parce qu'elle va arriver. Puis là, il dit, Habacuc, il dit, mon juste vivra par la foi. Donc, il vit, il est nourri de la foi. Il se garde à cause de la foi. C'est la foi qui est vraiment importante, là. Puis c'est un passage qui est dans Habacuc, mais qui est cité trois fois dans le Nouveau Testament. Ce même passage-là est cité trois fois avec l'emphase sur une partie. Il y a trois parties dans le verset « Mon juste vivra par la foi ». Ben, chaque passage dans le Nouveau Testament qui cite ce verset-là, ils mettent l'emphase sur la première, c'est dans Romains 1, 17. « Mon juste ». Donc ici, on pense que l'Épître aux Romains nous parle de justification. Donc c'est le bon juste, c'est celui qui est justifié. L'emphase est mise sur la justice qui nous est imputée par le Seigneur Jésus à cause de ce qu'il a fait pour nous. Donc, c'est mon juste. Donc, on est juste dans Galate. Puis, on sait que Galate nous parle de la loi ou de l'esprit de vie. On n'est plus sous la loi, mais on est maintenant, il demande la supériorité de la vie dans l'esprit. Puis, là, l'emphase est mise sur vivre. Donc, on vit par la foi. Puis, dans Hébreux 10, 38, bien, on voit que c'est l'emphase ici est mise sur la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc, ici, il est question de la foi, ce qui nous introduit dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui est maintenant les trois derniers chapitres de l'Épître aux Hébreux. Bien, ça nous parle de. Le chapitre 11 nous parle de la foi. Un peu comme 1 Corinthiens 15, c'est un exposé merveilleux sur la résurrection. Ben, le Hébreux 11 est un exposé merveilleux sur la foi. Comment la foi a agi, comment la foi a été. Il y a des témoins de cette foi-là qui sont pour nous un encouragement de demeurer pour le Seigneur. Puis dans Hébreux 12, il va nous parler de l'espérance. Et dans Hébreux 13, on nous parlait de l'amour. Ça rejoint un peu comme 1 Corinthiens 13, 13, quand il nous parle de l'amour. Et il nous dit, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, on voit ici que dans les trois derniers chapitres de l'Épître aux Hébreux, on va parler de la foi, de l'espérance et de l'amour. J.G. Bellette, lui, il dit que le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est être en dedans du voile, mais hors du camp. C'est ça qui était un peu représenté par ces héros-là de la foi. C'est des gens qui ont vécu en dedans du voile. Ils ont entré à l'intérieur, au-delà du voile, mais pour le faire, ils ont sorti du camp. Donc, ils ont vécu de cette façon-là. Si on va dans Éphésiens 2, 19, Éphésiens 2, 19, on va faire un peu une introduction de ce chapitre-là. 2, 19, il dit: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, c'est ça qu'on est. On est à l'intérieur. On est des gens du dedans. Ça, c'est vraiment important. Dans le chapitre 11, il dit, au verset 1, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est capable de vivre selon des choses qu'on ne voit pas. On ne les voit pas encore. Puis, il dit au verset 2, Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pour ça que tous les témoignages qui sont rendus à chacun, qu'on va regarder dans le futur, on va regarder les témoignages de ces gens-là. Mais pourquoi que ce témoignage-là est favorable? Pourquoi ils ont obtenu un témoignage favorable? C'est parce qu'ils ont agi par la foi. Puis c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont agi. Ils ne voyaient pas le plan global de Dieu, là, de rédemption. Puis ils ont vécu. Mais en autant qu'ils ont vécu par la foi, qu'ils ont été obéissants au Seigneur, ben, ils font partie, c'est comme une mosaïque. C'est comme une mosaïque pour démontrer la foi. Puis, parce qu'ils ont vécu par la foi, ils ont chacun vécu d'une façon différente, dans un sens. C'est toujours par la foi, mais ils ont eu des rôles différents. Puis, tous ces rôles-là qu'on voit, là, ben, c'est tout un patron. Ça nous montre vraiment la grâce de Dieu. Dieu les utilise comme des leçons d'objet pour nous expliquer la foi, pour nous faire comprendre cette foi-là. Puis les autres, ils n'ont pas marché par la vue. Nous autres, maintenant, on peut regarder en arrière, puis voir leur façon de vivre, comment ça s'est agencé ensemble. Les différents personnages se sont agencés pour chacun démontrer une facette de la gloire de Dieu. Puis ça, c'est vraiment merveilleux. C'est un petit peu comme Joseph avec sa tunique de plusieurs couleurs. C'était plusieurs facettes. Joseph, sa tunique démontrait plusieurs facettes. On sait que Joseph était un type du Seigneur Jésus. Puis chacun de nous aussi, on démontre une facette. On va être rendu semblable au Seigneur. Bon, pas dans sa plénitude ensemble, mais on est dans la plénitude. Mais c'est parce que chacun de nous va démontrer une facette de la gloire du Seigneur Jésus. Puis c'est pas nous autres qui choisissons ça. Abraham, c'est pas lui qui a choisi. Adam, c'est pas lui qui a choisi. Isaac, Jacob, Abel, tous ces gens-là, ils ont vécu des situations qui étaient pour démontrer la progression de l'œuvre de rédemption du Seigneur. Donc c'est vraiment, ils ont marché par la foi. Pas par la vue. Ils ne marchaient pas d'après ce qu'ils voyaient chaque jour. Ils marchaient d'après la direction de Dieu qui les avait rachetés. C'est un peu comme les avions hein, qui volent maintenant avec les instruments. Là. Ils peuvent atterrir dans la brume, ils peuvent atterrir dans la noirceur, ils peuvent atterrir quand ils ne voient pas. Ils peuvent voler quand ils ne voient pas non plus parce qu'ils ne volent pas à vue. Ils volent selon les instruments. Mais pour voler selon les instruments, il faut que tu mettes ta confiance dans les instruments parce que tu ne vois pas là. À un moment donné, tu arrives, hop, la piste d'atterrissage est là, puis tu atterris dessus, mais tu ne la vois pas. Fait qu'il faut vraiment avoir la foi dans ces instruments-là. Parce que si on commence à douter des instruments, ben, on est fait. On est fait. Parce que des fois, on peut se sentir pas à la bonne place. Mais l'instrument nous dit, oui, tu es à la bonne place. Continue comme ça. Puis le pilote, qui ne se fie pas à ses instruments, mais il va s'écraser. Il a besoin d'avoir confiance dans ses instruments. Donc, nous autres, c'est la même chose ici. La foi, là, Elle nous permet de jouer notre rôle dans notre temps. Ah oui, parce que le Seigneur, il y a un plan pour chacune de nos vies. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puis la foi nous rend capables de faire ces œuvres-là que le Seigneur il veut qu'on fasse. Qui va être différent pour moi comme il va être différent pour vous. On n'a pas toutes les mêmes œuvres. Puis dans le corps de Christ, il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. On est tous sur le même pied d'égalité, mais on a des rôles différents. Puis le Seigneur, quand on marche par la foi en lui, il agence ces rôles-là pour accomplir une œuvre. On est le corps de Christ. On est chacun pour sa part. On est des membres du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est important, ça, ici. Nous, on lit maintenant le plan de Dieu, là, puis on voit que chacun des joueurs s'harmonise pour le plan global. Ce n'est pas parce qu'ils ont parlé ensemble, c'est parce qu'ils ont été obéissants par la foi. Eux, ils voyaient pas le plan qu'on voit nous autres maintenant en lisant les Écritures, mais ils ont accompli par la foi parce qu'ils s'étaient fiés à celui qui les dirigeait. C'est un peu comme un chef d'orchestre, hein, qui dirige chacun des instruments pour produire la pièce dans une belle harmonie. Puis ceux qui sont des mélomanes, ils peuvent vraiment apprécier ces choses-là. Mais chacun doit suivre le chef d'orchestre. Parce que s'il y en a un qui ne suit pas le chef d'orchestre, ben là, ça va. Il y a besoin de direction. Il y en a un qui dirige. Toutes les autres qui sont dans l'obéissance, eh bien, ils font une œuvre qui est harmonieuse. C'est quelque chose de beau. C'est pour ça que une pièce de musique qui est bien jouée puis qui est bien dirigée, bien ça, c'est agréable, c'est beau. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'on voit le plan de Dieu, il est tellement beau, tellement merveilleux, parce que on le voit qui est démontré dans le rôle de chacun qu'on va regarder ensemble dans un autre temps, lundi prochain, Seigneur voulant. Fait que je m'arrête là pour tout de suite et je vous donne la possibilité de reprendre vos micros. Et ensuite de ça, ben, s'il y a des commentaires ou s'il y a des questions, ben, on va passer un temps ensemble pour regarder ces choses.
Si vous permettez, avant les commentaires puis les questions, j'aurais un message à transmettre. C'est de la part de notre sœur Ruth Cusson. Notre sœur a le cancer du pancréas. Ça a été déclaré au début de l'année 2024. Puis elle nous dit ceci, c'est mon quatrième taco. Jusqu'à présent, la tumeur a diminué de 5,3 cm à 3,2 cm. Puis est resté stable fin avril 2024. Non, puis est resté stable, excusez. Fin avril 2024, on me donnait 3 à 6 mois à vivre. Là, ça fait plus qu'un an. Donc, j'en viens à la demande. Elle dit, je me demandais si l'un de vous, c'est Marie et moi à qui elle parle, je me demandais si l'un de vous pourrait faire une annonce à la réunion ce soir. J'aurai les résultats de mon dernier taco demain, je crois, lors d'une rencontre avec un oncologue à 8h20. Donc, à 8h20 demain, elle va avoir son résultat du taco. Donc, elle nous dit, j'aimerais que vous demandiez que les chrétiens prient pour que tout se fasse pour la gloire de Dieu, pour l'honorer, lui, quels que soient les résultats. Donc, je pense que je pourrais peut-être
Oui,
conduire dans la prière
une fois de
avant
base,
d'aller plus loin. Oui, Seigneur notre Dieu, on te demande de mettre ta main sur notre sœur Ruth. Comme ça a été mentionné, on lui donnait 3 à 6 mois à vivre, mais ça fait maintenant plus d'un an. Et en plus, tu as permis que la tumeur diminue. Maintenant, elle a subi un autre taco dernièrement et elle va avoir le résultat demain matin. Et notre Dieu, on te demande que quel que soit le résultat, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, on te prie, Seigneur, de mettre ta main sur notre sœur afin que ton nom soit honoré par son attitude. On te rend grâce, notre Dieu, on peut compter sur toi. C'est toi qui contrôles toutes choses. Tu contrôles nos corps, notre Dieu. Tu contrôles même tout dans ce monde. Et nous voulons te faire confiance. Et, nous te prions spécialement pour Ruth et son mari Jean dans ces circonstances. Et on te prie, notre Dieu, de les bénir dans la suite. Et encore une fois, que ton nom soit honoré par ces résultats. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.
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 Amen. Merci, Donald.
Amen.
J'ai un Pardon?
Ton nom, c'est Ruth Husson.
Husson.
Husson, ok. Merci. Merci. Je vais l'écrire.
Je reviens, Gérald, sur le texte
OK.
de Hébreux 9, 26 à
Oui.
29. Si je comprends bien, ce sont des gens qui ont entendu parler de l'Évangile, mais qui ne l'ont pas reçu.
Dans 10, chapitre 10.
Chapitre
OK.
10, ouais, excuse-moi.
OK.
Alors, au chapitre 10, le verset 26, là,
Ouais.
à 29, c'est des gens qui ont entendu l'Évangile, mais qui ne la reçoivent pas.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et puis, on peut voir à travers le 30, là, ça s'adresse probablement aux chrétiens à ce moment-là.
Comme connaissant celui qui a dit à moi la vengeance, ouais, le Seigneur jugera son peuple. Mais on pense, parce que c'est sûr que l'Épître aux Hébreux s'adresse aux Hébreux, premièrement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'adresse pas à nous autres, mais elle s'adresse aux Hébreux, premièrement. Puis, on pense que comme Dieu a choisi le peuple juif. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sauvés. Il les a choisis pour, dans l'élection, il les a choisis pour un but. C'est de se manifester à travers son peuple. Mais dans son peuple, parmi les Hébreux, les Juifs, de tous les temps, il y a des sauvés, puis il y a des non-sauvés. Il y a des gens qui ont reçu la promesse, puis il y a des gens qui ne l'ont pas reçue. Il y en a qui vont être perdus éternellement, puis il y en a qui vont être sauvés éternellement. Comme, dans un sens, il y avait des gens dans l'Ancien Testament qui sont sauvés, qui n'étaient pas dans le peuple juif. Puis, fait que c'est pour ça quand il dit qu'il va juger son peuple, à cause du grand privilège qu'ils ont eu, parce que la loi est venue par eux autres, les Écritures sont venues par eux autres, le Messie est venu par eux autres. Ils sont plus responsables. Ceux qui ont outragé cet esprit de la grâce-là, là, qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu, ils ont dit crucifie-le, crucifie-le, on ne veut pas de cet homme pour régner sur nous. Dieu va juger ce peuple-là d'une façon plus sévère à cause de la connaissance qu'ils avaient. Nous, on est des païens, on n'avait pas ces écritures-là, on a reçu, les païens ont reçu le message que les juifs ont rejeté.
Eh bien, merci, Gérard.
Sûr que c'est des passages qui sont difficiles, ça, puis il faut toujours les interpréter à la lumière des passages plus faciles. C'est certain que ça. Une chose qu'on est sûr, c'est que ça ne parle pas de la perte du salut. Parce que partout, on a l'assurance. Quelqu'un qui est vraiment sauvé, il est sauvé pour l'éternité. Puis même, il en a parlé, qui nous a sanctifiés pour toujours. Là, qui a apparu une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quand on est sauvé, on ne peut pas remettre en question la promesse de Dieu là-dessus. Je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Il y a plusieurs passages de l'Écriture qui nous assurent. Donc, quand on interprète un passage comme celui-là, qui est plus difficile, il ne faut jamais que ça contredise le reste de la parole de Dieu.
Puis je reprenais encore peut-être la même question, mais j'irais
Oui.
dans Romains chapitre 10, les
10.
versets 20 et 21,
OK.
peut-être semblable un petit peu. Romains chapitre 10, versets 20 et 21. Alors, ça dit, et Isaïe poussa, pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchent pas. Là, c'est probablement nous. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas. C'est encore nous. Okay. Là, c'est pas les Hébreux. Le 21, là, ça sera les Hébreux. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Ça va, merci.
Puis c'est ça que le Seigneur il utilise aussi les païens. Puis Paul, c'est pour ça qu'il disait que Paul il avait un grand désir de voir son peuple sauvé. Parce qu'on sait, il dit qu'il même qu'il avait voulu être anathème, séparé de Christ pour eux, pour son peuple, sa chair. Mais lui, il magnifiait son ministère envers les païens, dans le sens que pour amener les Juifs à la jalousie, les provoquer à la jalousie, puis démontrer que maintenant Dieu s'étant tourné vers les païens, ben eux, éventuellement, dans le chapitre 11 de Romains, ils vont voir que Dieu a fait miséricorde à nous, qu'on était désobéissants. Là, ils vont réaliser que Dieu peut leur faire miséricorde à eux aussi, parce qu'eux aussi ont été désobéissants. Puis Dieu a englobé tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Pour faire miséricorde à tous. Fait que Israël, il voyait ça un peu comme Dieu n'a pas le choix. Il nous a choisis. Mais il faut faire attention. C'était pourquoi qu'ils ont été choisis. Fait que s'ils outrageaient l'esprit de la grâce, ben, de quel pire châtiment? Qui vont être jugés. Pensez-vous que sera jugé digne celui qui a refoulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a retenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié? Puis ces Hébreux-là, s'ils retournaient en arrière, aller dans l'ancienne Alliance, ça veut dire qu'ils outrageaient l'esprit de la grâce.
Oui.
Pour en venir aux rétrogrades et aux apostats tantôt, quand on est sauvé, en tout cas ça a été mon cas, quand on a été sauvé, on sait qu'on est sauvé parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Puis c'est ça qui nous donne de l'assurance.
Ouais, c'est ça, les rétrogrades, il sait qu'il est sauvé, mais
Oui.
il jouit pas de son salut. Il n'y a pas la joie de son salut. Tandis que l'apostat, lui, un apostat, il s'en va, puis lui, il est vraiment. Il veut rien savoir. Là.
Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés, puis dans leur témoignage, dans leur façon de voir, de vivre, on voit qu'ils ne le sont pas.
Ouais. C'est un peu le thème de 1 Jean, là, le premier épître de Jean, là, ceux qui pratiquent la justice est de Dieu, celui qui ne pratique pas la justice,
C'est
c'est.
beau se dire sauvé, mais
Ouais.
on ne voit pas les fruits.
Ouais, c'est ça. On juge un arbre à son fruit. Nous, on ne voit pas la foi, on voit les résultats de la foi. C'est ça qu'on va voir dans le chapitre 11, là. Qu'est-ce que la foi? On voit que ces gens-là avaient la foi à cause de ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils ont vécu d'une façon qui démontrait qu'ils avaient confiance à Dieu, ils avaient mis leur foi en Dieu. C'est ça, je pense qu'on est arrivé à notre temps, c'est qu'on va terminer par un mot de prière, puis s'il y en a qui veulent continuer, on peut continuer après, mais ceux qui doivent partir vont pouvoir partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore pour ce temps passé ensemble ce soir dans ta parole. On sait, Seigneur, qu'il y a des passages qui sont difficiles parfois, on a besoin d'être éclairé par ton esprit. On te demande, Seigneur, de nous aider à répondre d'une façon qui soit conséquente à ce que nous a été donné, Seigneur, ce que nous avons reçu comme enseignement, ce privilège merveilleux d'être au bénéfice d'un sacrifice si grand, si merveilleux, qu'on peut s'approcher, Seigneur, qu'on peut retenir fermement, puis, Seigneur, de ne pas abandonner notre assurance, de ne pas abandonner notre assemblée, puis de ne pas abandonner notre assurance aussi. Merci, Seigneur. On veut penser, Seigneur, à notre sœur Ruth, encore une fois, mets ta main sur elle, Seigneur. Merci pour sa présence parmi nous. Mais notre Dieu, on pense à demain. Mets ta main sur cette situation-là, Seigneur, pour la gloire de ton nom. On prie aussi pour la femme de notre sœur, Serge, notre Dieu, pour Serge aussi, dans ces circonstances. Fortifie-le, encourage-le. Merci encore une fois, Seigneur, qu'on puisse confier en toi dans toutes ces choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.